Chapitre 3e, les pochards. Martin Huma était un homme extrêmement doué. Il aimait les arts, était quelque peu musicien, jouant assez bien du piano et il cultivait surtout la peinture. Il faisait des tableaux qui étaient mieux que des pochades et qui ne manquaient nullement de talent et d'originalité. C'était d'ailleurs au milieu de ses pinceaux, de ses toiles, devant un chevalet, et sous un grand parasol en plein air, au bon soleil, qu'il se reposait le mieux, qu'il se remettait de ses fatigues et se préparait à de nouvelles campagnes. Pendant quelques jours, il resta en traitement dans sa maison secrète, silencieuse, cachée, continuant là, pour le public, son rôle d'incognito, de disparu et de mort depuis l'explosion de la rue Lamartine. En effet, on ne l'avait revu nulle part. Personne ne se doutait qu'il pouvait être encore vivant. Nous savons que Prosper, Philippe, que tous ses agents, le croyant tout d'abord eux aussi disparu dans l'explosion, avaient admirablement joué leur rôle de désespéré, d'autant plus que ce rôle était absolument sincère. Dans la presse, nous nous en souvenons, il y eut de nombreux articles élogieux. On le regretta, on le pleura parmi ses confrères. Puis, comme il se fait toujours pour toutes choses humaines, le silence s'étendit sur lui et maintenant sa disparition n'était plus regardée comme une chose extraordinaire. C'était un simple événement dont l'importance disparaissait. Martin Huma lui-même s'éteignait en tant qu'homme. Bien qu'on parlât de ses exploits, qu'on le citât à propos de plusieurs nouvelles affaires de moindre importance qui surgirent depuis. Il put donc à loisir se faire soigner, panser le coup de couteau qu'il avait reçu à l'épaule et se guérir à son aise. D'ailleurs, sa blessure, fort heureusement, n'était pas aussi grave qu'au premier abord on le redoutait. L'arme de l'assassin était bien entrée dans les chairs, mais une circonstance heureuse en avait détourné le danger et rendu en quelque sorte anodine, sinon douloureuse, la pointe du couteau. Au cours de la lutte avec le tatoué, Martin Huma, ayant subi de la part de son adversaire des quantités de prises à la mode japonaise, ayant eu plusieurs fois le col très haut et empesé de sa chemise en grosse cotonnade ordinaire, froissée et pliée en tire-bouchon dans le dos, le couteau, rencontrant cette masse de linge, ce bourrelet, avait été arrêté en partie si bien que la pointe pénétrant dans les chairs les avait seulement lacérées et s'était arrêtée à l'omoplate. Grâce à cette chance véritable, aucun organe essentiel n'était atteint. Et le sérum du docteur Gouget avait fait le reste. Au bout de quelques jours, dans 2 ou 3 semaines, Martin Huma pourrait se considérer comme guéri. Pour achever son rétablissement, il avait décidé de passer quelques jours à la campagne. Un de ses amis, homme sûr et dévoué, possédait au Bas-Samois une petite maison de campagne entourée d'un jardin clos, avec de la volaille, des lapins, des poules dans un poulailler, et quelques canards qui barbotaient dans le filet d'eau coulant sans cesse de la fontaine. La petite villa se trouvait en dehors du village et donnait sur la campagne. Cet endroit est parsemé de bouquets d'arbres, de petits bois et la forêt de Fontainebleau se trouve tout près, répandant presque jusque-là ses frondaisons merveilleuses. La Seine, majestueuse et lente, roule au pied des maisons son flot royal. Partout des points de vue admirables, des tableaux délicieux, vrai pays de rêve pour les paysagistes. Martin Huma se rendit donc au Bas-Samois et commença de goûter là, tranquillement, le calme et le repos que l'on trouve à la campagne quand on sort de cette fournaise qu'on appelle Paris. Il partait de bonne heure, portant sa boîte, son pliant et son parasol, et s'installait devant quelques bouquets d'arbres, quelques tournants de route, et faisait sa pochade, fumant son éternelle cigarette, respirant le bon air, et sentant en lui revenir avec la santé ses forces si rudement atteintes et diminuées au cours de ses derniers exploits. Tantôt Philippe, tantôt Prosper, l'accompagnait, le gardait. Je vins aussi, moi-même, passer avec lui plusieurs fois le congé classique, du samedi soir au lundi matin. Philippe se piquait lui aussi quelque peu de peinture. Leur parasol plantait tout près, ils avaient l'air ainsi de deux bons peintres s'adonnant aux beautés de la nature, du plein air, aux études des rayons de soleil, et goûtant paisiblement en artiste le charme exquis du paysage. Personne ne pouvait reconnaître quels hommes, en vérité, étaient ces peintres paisibles. Mais rien n'est plus vrai que le dicton qui veut que jamais on ne puisse dépouiller le vrai homme et qu'il arrive toujours à quiconque des aventures, le faisant rentrer malgré lui dans sa profession dont il s'écartait dans sa vie habituelle. Martin Numa, qui pour le moment n'était plus policier, avait planté son parasol de peintre sur le bord de la Seine. Il prenait ce coin où le fleuve tourne avec au fond le barrage de la Cave et plus loin le vieux pont des Charmettes, où si souvent les peintres sont venus s'inspirer et qu'à tous les salons on voit figurer sous des aspects divers. Devant la beauté de ce paysage, il avait commencé non plus une pochade sur un simple panneau, mais un véritable tableau de dimension assez grande, et il s'adonnait à son travail avec un entrain admirable. Depuis plusieurs jours, il travaillait, lorsqu'une péniche vint s'amarrer non loin de là et entra comme sujet de peinture dans le tableau apportant sa note originale. La péniche était chargée de briques de poterie que les mariniers débarquaient lentement. Le hasard, le voisinage, firent que les mariniers lirent connaissance avec Martin Numa qu'ils voyaient constamment à son travail. Ils vinrent contempler son tableau, le comparèrent au paysage lui-même, émirent leur opinion, esquissèrent des critiques, demandèrent certains renseignements et enfin devinrent pour Martin Numa des amis. Le débarquement de la péniche toucha à sa fin. L'un des mariniers vint s'asseoir à côté de Martin Numa et entama la conversation comme de coutume. « Eh bien, la peinture, ça marche-t-il ? Voilà le tableau qui va être fini. »« Dame, oui, il est bien avancé. »« Ah oui, c'est exactement, c'est bien ça. »« Vous l'avez bien pris, il y aura même la péniche. »« On la reconnaît bien. » »« Vous allez l'avoir fini bientôt. »«
Je l'ai même tout à fait terminé. » »«
Seulement, » dit le marinier en riant, « vous y laissez les briques dans la péniche et la poterie. » Il y a longtemps que nous les avons enlevés et fini de décharger.
Sans doute, mais comme cela forme une jolie tache de couleur, je ne tiens pas à l'enlever et mon souci de la vérité ne va pas jusqu'à gâcher ce coin et faire une péniche vide.
Oui, c'est mieux comme ça, en effet. Ainsi, vous avez fini le travail et vous allez partir.
Dame, oui, c'est fini.
Le patron est allé toucher sa facture, nous serons réglés tantôt et puis je crois que demain, à la première heure, nous serons en route. De sorte que quand mon camarade va venir, pour le cas où on ne vous verrait pas demain, on va ce soir vous dire au revoir.
Quand c'est qu'on se reverra ?
Peut-être jamais. Martin Numa répondit tout en continuant de brosser. J'espère qu'on se reverra un jour ou l'autre. En tout cas, je garderai de vous un agréable souvenir. Nous avons fait bon voisinage, vous déchargeant vos briques et moi en peignant votre péniche. Peu après, en haut de la berge, une voix appelait le marinier. C'était le camarade qui faisait signe, criait quelque chose, remuait ses bras, agitait son chapeau, donnant l'indice d'un contentement profond et d'une grande joie. Martin Numa avait tourné la tête de ce côté en même temps que le camarade marinier. Il dit en riant, « Ah, je vois que votre camarade a dû toucher sa paye. Et Dieu me pardonne, il l'a déjà fortement entamé. » Le marinier se mit à rire et répondit, « Ah oui, vous avez de l'œil. Vous avez vu ça, mon camarade. C'est un bon garçon, mais dès qu'il a des sous dans la poche, il s'empresse de le faire savoir au monde entier, et surtout au bistrot, qu'il trouve en route. Aussi, vous voyez, il est déjà pas mal éméché, et ce soir, certainement, il sera dans les alambics du Seigneur.
S'il est heureux comme ça.
Enfin, je vous dis au revoir, parce que je vais rejoindre mon compagnon, et comme je le connais, si je n'allais pas tout de suite le prendre et le ramener, je gage qu'il boirait tout son argent et que j'aurais beaucoup de mal à le faire rentrer plus tard. D'autant plus que quand il a un peu bu, il devient excessivement mauvais coucheur. » Martin Numa tendit la main à ce brave homme et en riant lui dit « En ce cas, mon ami, dépêchez-vous, parce que je vois que votre camarade s'agite de plus en plus. Le mouvement doit lui donner soif. Hâtez-vous pour qu'il ne boive pas tout. » Le marinier se leva et en courant grimpa la berge pour rejoindre au plus vite son camarade qui commençait à crier. Et Martin Numa put entendre ou distinguer dans ses cris le mot Neptune. Le père Neptune était l'enseigne d'un cabaret qui se dressait sur le bord de la route marinière, fort connu de tous ceux qui ont affaire sur l'eau. On y vient manger des fritures et boire un certain petit vin aigrelet qui donne toujours soif, dont on ne se rassasie pas et dont les clients redemandent sans cesse. Petit vin traître que le père Neptune prétend fabriquer dans le pays avec du raisin, du chasselas de Fontainebleau, mais dans lequel certainement le raisin entre pour une part minime et l'alcool de grain pour la majeure partie. L'eau et le camp pêchent pour le reste.
mais ce petit vin racle admirablement le gosier, procure une ivresse facile et fait le double plaisir de donner du velours dans la bouche et de mettre en tête toutes sortes d'idées joyeuses. Idées joyeuses d'abord, mais aussi colère et envie bataille, car si on entendait souvent dans le cabaret du père Neptune des voix qui chantaient très haut, mais toujours très haut, très fort, des chansons tendres, patriotiques ou joyeuses, on y entendait aussi plus tard dans la soirée des cris, des hurlements épouvantables, et cela indiquait qu'après les chansons, la bataille commençait et que les clients, d'abord joyeux, étaient devenus furieux, ne battaient plus la mesure à coups de gros souliers sur le parquet, mais se battaient entre eux à coups d'énormes poings sur la figure. Martin Numa laissa donc aller ses camarades mariniers arroser leur paix comme il l'entendait. Il leur souhaita en lui-même de ne pas trop se battre, de ne pas trop boire, puis, le soir étant venu, il essuya consciencieusement ses pinceaux, racla sa palette, et ayant plié son attirail, le parasol sous le bras, la boîte de peinture à la main droite et la main gauche tenant précieusement écarté du corps le tableau, il rentra à la villa de son ami. Dans la soirée, ainsi qu'il arrivait souvent, Martin Numa et Prosper, qui ce jour-là l'accompagnaient, ainsi que leur hôte, eurent l'idée d'aller faire sur la route marinière une promenade jusqu'au village voisin. Ils comptaient marcher ainsi pendant près d'une heure, fumant l'un la pipe, l'autre le cigare, et le roi des détectives sa cigarette, puis la digestion faite, rentrer tranquillement à la maison, les jambes dégourdies, les poumons pleins d'air et le sommeil commençant à caresser le cerveau. Ils passèrent ainsi en revenant devant le cabaret du père Neptune. On entendait bien une voix d'ivrogne qui hurlait une chanson sentimentale, dans laquelle les blés d'or se mêlaient aux petits ruisseaux et aux oiseaux, mais aussi, dominant par intervalles cette chanson, des cris, des vociférations, des hurlements de bêtes fauves. Puis brusquement la porte s'ouvrit et deux hommes se précipitèrent. C'était la batterie ordinaire des ivrognes, terrible. À coups de poing formidables sur les crânes, bataille comme les mariniers savent les livrer entre eux et qui se termine toujours par un éreintement complet. Martin Numa et Prosper reconnurent leurs deux camarades de la péniche, les deux mariniers, celui qui se trouvait sur la route tout à l'heure et celui qui avait eu cette dernière conversation avec Martin Numa sur le bord de l'eau. Ils assistèrent donc au combat et pensant qu'il valait mieux que ces gens arrangeassent leurs petites affaires entre eux, sachant qu'il ne faut jamais, surtout dans les cas pareils, mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, ils les laissèrent sur la route vider leurs différends à grands coups de poing, comme ils avaient vidé leurs bouteilles sans autre intervention. Il y eut deux ou trois reprises où, tour à tour, l'un ou l'autre roula dans la poussière en poussant des hurlements, des jurons terribles. Celui qui tombait se relevait et se précipitait sur son adversaire, lui assénait un formidable coup où en recevait un de même importance. Il y avait encore une chute, des jurons, un recommencement de bataille. Très calme, Martin Numa et Prosper, ayant l'habitude de ces sortes d'affaires, se doutant bien que celle-ci se terminerait comme les autres, par l'éreintement des deux combattants qui, alourdis par les coups de poing et aussi par l'alcool, les yeux plus ou moins pochés, les dents plus ou moins cassées et le nez dans un étoi pitoyable, finiraient par tomber sur le bord du fossé et dormir côte à côte comme deux compagnons, deux pochards, qui se sont bien expliqués. Ils attendirent la fin de la bataille. Mais tout à coup, un des hommes qui était à terre, et Martin reconnut celui avec qui il avait eu cette conversation de l'après-midi, se releva et vint furieux à son adversaire. Il lui envoya un tel coup de poing, ou plutôt, il eut la chance de si bien placer son coup que l'autre chancela, fit deux pas en arrière et tomba la tête la première sur le talus, sur la berge, qui descendait jusqu'à la Seine. Le vainqueur se campa sur le rebord de la route et cria au vaincu « Moi, au moins, tu ne me feras pas comme tu as fait à Suresnes. Tu ne me jetteras pas à l'eau, après m'avoir volé et assassiné. » Puis triomphant et titubant épouvantablement, traçant des zigzags superbes et fort irréguliers sur la route blanche, reniflant son sang et se tenant un peu la mâchoire, gesticulant, se flattant lui-même de sa victoire, il rentra dans le cabaret du père Neptune et, dès la porte, cria « Je l'ai assommé, encore un litre, pour moi tout seul !» Pendant qu'il faisait son trajet triomphal du lieu du combat au cabaret, Martin Numa attira en arrière ses deux compagnons et les fit asseoir dans le fossé même, parallèle à la route. Ils demeurèrent ainsi dans l'obscurité. L'ivre du vainqueur passa dans toute sa gloire devant eux, roula jusqu'au bord du fossé où ils se trouvaient, menaça de s'écrouler sur eux, puis, se ramassant, se redressant, il alla vaciller plus loin, reprendre un équilibre instable, au milieu de la route qui ne lui semblait plus assez large, et il passa ainsi devant eux sans les voir. En chemin, parcourant vers le cabaret, il disait toujours, parlant à son ennemi qui roulait là-bas sur la berge et se retournant, le menaçant du poing, « Ah non, tu ne me feras pas le coup de surène !» On le laissa rentrer chez le père Neptune et célébrer sa victoire en ingurgitant de nouveaux liquides. Mais ses paroles ne devaient pas être perdues, et le coup de surène restait dans les oreilles de Martin Numa. Cependant, le roi des détectives ne dit rien sur le moment. La promenade continua, tout en parlant de façon incidente de cette bataille à laquelle ils avaient assisté si inopinément. On rentra à la villa. L'hôte dit bonsoir à ses amis, rejoignit sa femme dans sa chambre et laissa le roi des détectives et son second se diriger chacun vers eux. Martin Numa fit un signe à Prosper. Prosper suivit tranquillement Martin Numa dans sa chambre, derrière lui ferma la porte et attendit les ordres de son chef. Le roi des détectives alluma une cigarette, après en avoir offert une à son second, puis il s'assit dans un vieux fauteuil. Enfin, il demanda à Prosper « Ça ne vous chatouille pas les oreilles, ce que nous venons d'entendre ?»« Quoi donc, chef ? Le coup de surène ?»« En quel sens ? Rappelez vos esprits, fouettez un peu votre mémoire, qu'elle revienne au galop !»«
Chef, je ne vois dans ma mémoire, à propos de surène et de marinier, qu'un fait qui puisse avoir une coïncidence très lointaine avec le cri de victoire de notre pochard. Voyons. »
C'est celle du bonhomme que nous avons été examiné quelques jours après la disparition d'Éloi Vidal et qu'on nous a dit avoir été repêché à Suresnes. Or, cet homme, d'après les pronostics faits par vous, chef, devait être, en jugé par l'état de ses pieds, les traces de ses mains, un marinier, ou un de ces hommes qui vivent au bord de l'eau de métiers divers.
Martin Numa inclina la tête et dit « C'est cela.
Je pense que le cri du bon pochard vainqueur « Tu ne me feras pas à moi le coup de surène » pourrait bien être un rappel de cette affaire. C'est possible. Ce qui me porterait à le croire, c'est que pendant que ces hommes, alors dans leur bon sens et à jeun, dirigeaient leurs chalands, j'ai remarqué que le travail qu'ils faisaient en remuant les briques, en les transportant et en les rangeant sur la berge, ce travail devait procurer à leurs mains, à leurs épaules et à leurs pieds les mêmes traces de labeur que nous avons remarquées sur le cadavre à la morgue. Il y aurait donc là une nouvelle corrélation, un rapport singulier entre ces hommes et celui dans lequel Mme Vidal ne pouvait reconnaître son malheureux mari.